إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأحبتي الكرام، ما زلنا مع قراءة ما يتيسر لنا من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بشرح فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. وقد وقفنا في درسنا الماضي عند باب إثبات علو الله، باب إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه عز وجل. أخنا ريان، فضلك.
إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وقوله في رقية المريض
الصحيح ربنا، ربنا الله،
ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم.
بارك الله فيك. إذن قد قرأنا شرح الشيخ الفوزان لحديث الرقية، والآن ننتقل إلى الحديث الثاني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني، هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في بعض قسمته المال. وألا أداة استفتاح وتنبيه، ألا أداة استفتاح وتنبيه، وتأمنوني من الأمانة. وما هي الأمانة؟ الأمانة هي عدم المحابات، عدم المحابات والخيانة، هذه هي الأمانة. أي ألا تأمنوني في قسمة المال وأنا أمين من في السماء وهو الله سبحانه، أي قد ائتمنني على وحيه ورسالته وتبليغ شرعه، وكفى بذلك شهادة على أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله سبحانه حيث قال من في السماء، فهذا دليل على علو الله عز وجل من في السماء، وسبق شرح الجملة قريبا. طيب، أي بمعنى من في العلو أو من على السماء. طيب، donc on s'était arrêté la fois dernière sur le chapitre concernant l'affirmation de la hauteur d'Allah tabarak wa ta'ala au-dessus de ses créatures et de son istiwa, de son élévation, de son établissement sur son trône, son arche. Et le Cheikh donc avait commencé par expliquer le premier hadith mentionné par Cheikh Islam rahimahullah concernant al-Ruqya, pour ceux qui étaient présents. Donc là on va lire l'explication du deuxième hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est Ala ta'manouni. Ala ta'manouni. Yani, comment ils ont traduit ici, Nabi? Là, avant celui-là. Après la Ruqya. Il est pas. Tu l'attends? C'est ça, non? Toi, il te manque le hadith. Donc, ils ont traduit par ne m'accordez-vous. Ne m'accordez-vous pas votre confiance, alors que je suis le dépositaire de la confiance de celui qui est au ciel. Non. Non, c'est ça. Ala ta'manouni, c'est-à-dire ne me faites-vous pas confiance. Hein? Ne me faites-vous pas confiance alors que je suis al-amin, le loyal, celui qui est loyal, celui qui est fidèle, et celui en qui a fait confiance celui qui est Menfisama, celui qui est au ciel. Vous voyez? D'accord? Donc le hadith, il est authentique. Il dit ici, le Cheikh Al-Fawzan, qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à ceux qui avaient contesté le partage des biens. Le partage des biens, le partage du butin qu'avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains s'étaient opposés ou critiqués au partage qu'il avait fait. Donc le terme « ala » que l'on trouve ici au début de sa phrase « ala kada wa kada » il dit le shaykh, c'est un outil d'expression orale. Hein? Exprimant tout d'abord al-istiftah, l'ouverture. Lorsque tu veux ouvrir une phrase, lorsque tu veux commencer et débuter un propos, tu peux commencer par ala. Et ça exprime aussi at-tanbih. C'est-à-dire le fait que tu veux attirer l'attention sur une chose importante. Donc ala, adat, istiftah, pour ouvrir une phrase. Pour attirer l'attention des gens sur une mas'ala, sur une chose particulière. Ala kada wa kada. D'accord? Donc ta'manouni, ici le verbe yani ya'manou fil madhi amana ou la amina, hein? C'est sûr. Il faut voir le ma'na. Parce que amana, ça peut exister. Amina, ça existe, il n'y a pas de doute. Ya'man. Ya'man, bien ma'na, yaslam. Être préservé de ya'man. Amina. Mais amana, Allahu a'lam. Dans tous les cas, c'est tiré du mot al-amana. Al-amana. C'est quoi l'amana? On traduit souvent par le dépôt. Une amana. À la base, ce mot, il dit le cheikh, il exprime l'absence de trahison. Vous voyez ? Une absence de trahison et de muhabbat, de favoritisme. D'accord ? De favoritisme ou de partialité. Donc un acte qui est impartial, un acte qui est dénué de trahison, c'est une amana. C'est une amana. Quelqu'un de amin, c'est quelqu'un qui est loyal. Quelqu'un de amin, quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, qui respecte justement al-amana. L'objet que tu lui as confié ou le secret que tu lui as confié. Taïeb, tu as trouvé, là? Amina? Taïeb. Amina, ya'manou. Non. C'est-à-dire, ne me faites-vous pas confiance dans le partage des biens alors que je suis celui en qui a fait confiance. Celui qui est au ciel et qui est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah jalla wa ala, il m'a fait confiance dans la transmission de la révélation, dans la transmission du message, dans la transmission de la législation. Comment ça se fait que vous ne me faites pas confiance? Subhanallah. Pour une affaire, en plus, qui est liée aux affaires terrestres, qui est la richesse matérielle, etc. Subhanallah. Donc le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ait confié la révélation, la transmission de son message, suffit largement comme attestation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, yani, venant confirmer la véracité et la amana, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dénué de toute trahison, de toute tromperie ou de favoritisme, hein? Le fait qu'il soit qu'il fasse passer par exemple certains compagnons avant d'autres pour des raisons non légiférées. Non, le prophète est dénué de tout cela. C'est le loyal par excellence. Donc on a la preuve ici dans ce hadith, bien sûr, de la hauteur d'Allah, al-ulou d'Allah tabarak wa ta'ala, qui se trouve dans la parole man fis sama. Man fis sama, c'est clair. Il n'y a pas d'interprétation autre que cela. Man fis sama. Et on avait vu déjà le sens de fi as-sama, c'était soit fi al-ulu, c'est-à-dire dans la hauteur ou en hauteur, ou alors ala as-sama, fi qui aura le sens de ala, au-dessus de du ciel, au-dessus du ciel. D'accord? Tayyib. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wal 'arshu fawqa dhalik والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره فقوله العرش فوق ذلك تقدم تفسير العرش تقدم تفسير العرش. وقوله فوق ذلك أي فوق المخلوقات التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث الذي ذكر فيه بعد ما بين السماء والأرض وما بين كل السماء والسماء وكثاف كل السماء والبحر الذي فوق السماء السابعة وما بين أسفله وأعلاه وما فوق ذلك البحر من الأوعال الثمانية العظيمة. ثم فوق ذلك العرش، والله فوق العرش أي مستوي عليه استواء يليق بجلاله، وهو يعلم ما أنتم عليه بعلمه المحيط الذي لا يخفى عليه شيء. الشاهد من الحديث إثبات علو الله عز وجل على عرشه، وأن عرشه فوق المخلوقات كلها، وأن علم الله سبحانه وتعالى محيط بأعمال العباد لا يخفى عليه منها شيء. Donc on passe au hadith suivant. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le trône est au-dessus de cela, et Allah est au-dessus du trône, et il sait tout ce que vous faites. Le hadith il est hassan, apporté par Abu Daoud et autres. Donc le trône est au-dessus de cela. Donc, on a vu déjà le tafsir, l'explication du trône, l'arche. D'accord ? On a dit que l'arche c'est quoi ? سرير الملك والملك سرير الملك يعني le trône de la royauté. طيب. Et sa parole فوق ذلك au-dessus de cela, c'est-à-dire au-dessus de toutes les créatures qui ont été mentionnées dans le hadith juste auparavant. Car bien sûr le hadith là, c'est juste un morceau du hadith. Mais avant cette parole-là, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mentionné plusieurs créatures, notamment la terre, puis les cieux, hein, etc., etc. Donc parmi ces créatures qu'il a mentionnées à ses compagnons dans le hadith, notamment la distance entre le premier ciel et la terre, puis la distance entre chaque ciel. Vous savez qu'il y a 7 cieux en tout. Il a mentionné la distance entre chaque ciel. Combien de frères? Masirat 500. Combien? 500 000? Non. 500 000? Non. Entre chaque ciel?
500
ans
de
marche. Hein? 500 ans de marche. Non. 500. Masirat 500. Masirat 500. Entre chaque ciel, il y a 500 ans de Masirat. Est-ce que c'est à pied? Est-ce que c'est en monture? Allahu a'lam. Taïb, 500 ans. Et pas 500 000. Wa kithaf kulli sama, ainsi que l'épaisseur de chaque ciel. Donc il a mentionné aussi l'épaisseur de chaque ciel, pas seulement l'intervalle, yani l'espace qu'il y a entre les cieux, mais le ciel combien il fait? Il fait également 500 ans. Il a mentionné aussi la mer, l'eau, il se trouve au-dessus du septième ciel. Il y a une eau, le Bahr. Il a mentionné également ce qu'il y avait en bas de cette eau, au-dessus de cette eau. Et les créatures qu'il y avait au-dessus de l'eau. Min al-aw'al al-thamaniya al-azima. Donc al-aw'al, c'est quoi? C'est le pluriel de al-wa'al. C'est quoi un wa'al à la base? Hein? C'est le visage qui porte le poids. Non, ça c'est le tafsir. Mais dans la langue arabe, le wa'al, c'est quoi le wa'al? C'est un bouc, c'est un ma'is. C'est un bouc, le wa'al. Non, c'est un bouc. D'accord? Avec des cornes spéciales. On l'appelle le wa'al. C'est un bouc des montagnes spécifique. Et dans le hadith, il dit au-dessus de l'eau, il y a ces awal, ces boucles là, ils sont au nombre de 8. Et na'am, ils sont très forts. Et les ulama, ils disent que ce sont des anges en vérité. C'est 8 anges, mais qui ont la forme de bouc, qui ont l'apparence de cet animal. Vous voyez ? Puis au-dessus donc de l'eau, il y a le kursi. Et au-dessus du kursi, il y a l'arche, le trône. Puis il dit, et Allah est au-dessus du trône. Subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il est élevé sur lui, d'une élévation, bien sûr, conforme à sa majesté. Hein? Surtout ne pas imaginer la créature, et notamment un roi qui est assis sur son trône. Hein? Non. Allah Jalla wa'ala n'est pas comparable aux créatures. Et il sait tout ce que vous faites. Il est dans le sens, il sait ce que vous faites. Tout ce que vous faites. De par sa science qui encadre toute chose, qui cerne toute chose, et rien ne lui est caché. Bien sûr. Le coursier est beaucoup plus petit que le trône. Beaucoup plus petit. L'endroit des pieds. On va dire l'endroit des pieds. Comme on disait déjà, le mot. Qui est-ce qui avait un mot hein? Non, pas repose-pied. Repose-pied, c'est. Non, ça convient. Hein? Pose-pied, voilà, pour l'Afrique. Pose-pied. Repose, c'est le côté se reposer. Pose-pied. Ou l'endroit où. L'endroit des pieds. Hein? Je ne sais pas si on peut dire piédestal. Ça se dit piédestal, non? On n'a rien à voir. Piédestal.
Non, c'est le piédestal. C'est le.
L'élevé, hein, c'est ouais, ça. L'élevé. Est-ce que ça peut vouloir dire aussi un objet où on met les pieds? Ça mérite un bath. Donc ça prouve. Ce hadith, il prouve. Notamment la hauteur d'Allah tabarak wa ta'ala sur son trône. Et que son trône se trouve au-dessus des créatures. Toutes les créatures. Donc la créature la plus haute en termes de d'altitude, entre guillemets, hein, c'est l'arche. C'est le trône. Au-dessus de lui, il n'y a aucune créature. Il n'y a que Allah tabarak wa ta'ala, le créateur. Il y a la preuve aussi que la science d'Allah tabarak wa ta'ala, elle encadre, elle enclave les actes de toutes les créatures et donc rien ne lui est caché. ثم قوله صلى الله عليه وسلم للجارية أي للأمة أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. فقوله للجارية أي أمة معاوية ابن الحكم رضي الله عنهما حينما غضب عليها سيدها معاوية فلطمها ثم ندم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أفلا أعتقها أفلا أعتقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جئني بها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله أين الله يقول الشيخ الفوزان جلال الله هذا السؤال أين الله دليل على جواز السؤال عن الله بأين يجوز أن تسأل عن الله بأين أين الله أين الله جل وعلا قالت في السماء أي الله سبحانه وتعالى في السماء وتقدم تفسير هذه الكلمة قلنا بمعنى في العلو أو على السماء. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من أنا؟ سألها عن اعتقادها فيه هو صلى الله عليه وسلم. قالت أنت رسول الله، فأقرت له بالرسالة. قال عليه الصلاة والسلام لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها، في دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن، وأن العتق يشترط له الإيمان. هذه فائدة أيضا، أن العتق يشترط فيه الإيمان، فلا يجوز عتق العبد الكافر، لا يجوز، يشترط فيه الإيمان. وشاهد من الحديث أن فيه دليلا على علو الله على خلقه فوق السماواته، وأنه يشار إليه في جهة العلو إشارة حسية، إشارة حسية. Donc on passe au hadith suivant qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a demandé à Al-Jariya, à une esclave, il lui a demandé où est Allah, et elle de répondre il est au ciel, yani au-dessus du ciel. Puis il lui a demandé et qui suis-je? Elle l'a répondu, tu es le messager d'Allah. Il a dit alors à son maître, affranchis-la, et libère-la, affranchis-la, car c'est une croyante. Hadith rapporté par Muslim. Donc lorsqu'il a dit à la Al-Jariya, donc Al-Jariya ici, ça veut dire une esclave, l'esclave des compagnons qui s'appelait Muawiyah ibn al-Hakam radiyallahu anhu. Lorsque il s'était mis en colère contre elle un jour, et il l'a giflé, puis il a regretté son acte, et il en a informé le messager sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, est-ce que je la franchis? Yani, ne dois-je pas la franchir après ce que je lui ai fait? Et le prophète, il lui a dit, amène-la-moi, amène-la-moi. Donc il a ramené son esclave auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a demandé, première question, où est Allah? Donc cette question, les frères, est la preuve qu'il est permis de poser la question, de poser une question parmi les questions qu'on peut poser au sujet d'Allah tabarak wa ta'ala, qui est Aïna, où est Allah? Où est Allah? D'ailleurs, contrairement chez certains Mubtadi'a qui interdisent totalement de parler d'un endroit où se trouverait Allah tabarak wa ta'ala. Voyez, car ils disent qu'Allah il n'est ni en haut ni en bas, ni à droite ni à gauche. D'autres disent carrément Allah il est de partout. Fi kulli makan, il est de partout. Voyez, non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a posé la question claire, Aïna Allah, où est Allah? Ça veut dire qu'Allah tabarak wa ta'ala, il est quelque part, dans une direction précise, pas n'importe quelle direction, dans une jihad direction. Elle a répondu, il est au-dessus du ciel, fis sama. C'est-à-dire Allah jalla wa ala, comme on a dit, au-dessus du ciel ou en hauteur. Donc la hauteur, la direction, c'est quoi? C'est en haut. Ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Tu as même le droit de montrer comme ça, hein, le haut, en disant Allah il est en haut. La baisse. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé une deuxième question. Et il lui a dit, qui suis-je? Et elle de répondre. Donc il a demandé ici sur la croyance. Sur la croyance qu'il avait. Qu'elle avait, pardon. Au sujet de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc après avoir lui posé la question sur sa croyance au sujet d'Allah, il lui a posé la question sur sa croyance sur lui. Et là, elle lui a dit, tu es le messager d'Allah. Donc elle a reconnu clairement le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète, il a dit à son maître, Muawiyah, il lui a dit, libère-la, affranchis-la, car elle est croyante. Donc cela nous montre, premièrement, que celui qui atteste de l'attestation de foi, ash-shahadatan, c'est un croyant. Et également que l'affranchissement de l'esclave n'est permis que lorsqu'il est croyant. Ça prouve donc que si l'esclave est un kafir, tu ne peux pas l'affranchir. Tu ne peux pas l'affranchir, tu le gardes avec toi. Et s'il se convertit à l'islam, dans ce cas-là, si tu veux l'affranchir, tu l'affranchis. C'est pas obligatoire. Même si Allah tabaraka wa ta'ala, il encourage fortement à affranchir les esclaves. Il y a une grosse récompense derrière. Mais ce n'est pas une obligation, bien sûr. D'ailleurs, parce que lorsqu'il est devenu esclave, il n'était pas croyant à la base. Vous savez que l'esclavage, à la base, c'était le fruit des guerres, des combats, etc. D'accord ? Et donc, lorsqu'ils sont devenus esclaves, ce n'étaient pas des croyants. D'accord ? Donc, ils ont appartenu à certains musulmans parmi les croyants. Donc, ce droit-là du musulman qu'il avait à cette époque-là, tu ne peux pas l'enlever comme ça. Tu ne peux pas l'enlever comme ça. D'accord ? Il demeure. Même s'il devient musulman par la suite, il a toujours un droit sur lui. S'il le veut, il le garde en tant qu'esclave. S'il le veut, il l'a franchi. D'ailleurs. Donc c'est la preuve ici, encore une fois, de la hauteur d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses créatures et le fait qu'il soit au-dessus de toutes les créatures, hein, et que on peut indiquer une direction dans laquelle se trouve Allah tabaraka wa ta'ala, d'une indication qui est palpable et sensoriel. Hissiya, c'est pas quelque chose de métaphorique, mais c'est une vraie indication de direction qui est le haut. Allah, il est en haut. Vous voyez, c'est quelque chose qui est matériel. Taïeb. Donc là, on a quatre hadiths qu'on peut utiliser pour donc argumenter et prouver que Allah tabaraka wa ta'ala, il est au-dessus de nous, de toutes les créatures. Le hadith que l'on connaît tous, qui est le dernier, hein, de la servante, de l'esclave, où est Allah fis sama. Taïeb. Et également les autres hadiths, notamment yani, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au partage du butin, par exemple, lorsqu'il a dit ne me faites-vous pas confiance, alors que celui qui est au ciel me fait confiance. Subhanallah. Par Al-Bukhari et Muslim. Sahihay. Al-Bukhari et Muslim. فننتقل إلى الباب التالي وهو إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه جل وعلا. أخي نعيم، تفضل.
باب إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك
من القرآن
والقرآن.
في كتابك الفرقان؟
القرآن.
دعاء النوم. منزل التوراة والإنجيل والفرقان. طيب.
أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه.
بارك الله فيك. طيب، إذن الحديث الأول في هذا الباب هو: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. يقول: أفضل الإيمان، أي من أفضل خصاله. وفي هذا دليل على أن الإيمان يتفاضل. أن تعلم أن الله معك، أي بعلمه واطلاعه، حيثما كنت، أي في أي مكان وجدت. فمن علم ذلك استوت علانيته وسريرته، فهابه في كل مكان. أخرجه الطبراني أبو القاسم سليمان اللخمي أحد الحفاظ المكثرين، وقد روى هذا الحديث في المعجم الكبير. وفي الحديث دليل على إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته بأعمالهم، وأنه يجب على العبد أن يتذكر ذلك دائما فيحسن عمله.
Donc nous poursuivons bien là et on passe au chapitre numéro 7 qui est l'affirmation de la ma'iyya d'Allah. Et alhamdoulilah, on a déjà vu la ma'iyya, cette sifat d'Allah Jalla wa Ala, qui est la compagnie d'Allah, le fait qu'Allah soit avec les créatures. Et que cette ma'iyya, cette compagnie, ne s'oppose pas au fait qu'Allah soit au-dessus. Le fait qu'Allah soit avec toi ne s'oppose pas au fait qu'il est au-dessus de ses créatures et établi au-dessus de son trône. Ne s'oppose pas là.
C'est fou ce qu'il a marqué.
Ils ont marqué quoi?
Et avec ses créatures, et que cela n'est pas incompatible.
C'est bon. Non, c'est ça. Taïm. Donc le premier hadith, il dit: Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, afdalu l'iman. La meilleure des fois, ou la meilleure foi, et que tu saches qu'Allah tabaraka wa ta'ala est avec toi où que tu sois. Le hadith, il est hassan, il est bon, et il est rapporté par notamment At-Tabarani. Donc le fait que le prophète il ait dit sallallahu alayhi wa sallam la meilleure foi nous indique une chose: premièrement, que la foi donc a plusieurs qualités, d'accord, a plusieurs caractéristiques et qualités, et que fait donc partie des meilleures qualités de la foi, eh bien le fait que tu saches qu'Allah tabaraka wa ta'ala est avec toi. L'ihsan. نعم أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك فك tu adores الله تبارك وتعالى comme si tu le vois, comme si tu le vois, car si tu le vois pas lui il te voit. طيب ça c'est clair que c'est le plus haut degré, le plus haut degré de maratib din, des degrés de la religion. Islam, l'Iman, l'Ihsan. Comme on l'a vu dans le hadith, comme vous l'avez vu, inshallah, dans le hadith d'Ibril, alayhi salam. Le Mouhim ici, sa parole nous montre que la, parmi les plus grandes, les meilleures qualités de la foi chez une personne, c'est ça. Le fait qu'elle sait qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, est avec elle. Et c'est la preuve, donc, que l'Iman, la foi, de chaque personne ou d'une personne est différente d'une autre. Hein? Chaque individu n'a pas la même foi que les autres. D'ailleurs, certains ont une foi plus forte que d'autres ou plus faible. Il dit que tu saches qu'Allah tabaraka wa ta'ala est avec toi. Il est avec toi, bien sûr, de par sa science, comme on a vu. De par sa science. De par le fait que Allah Jalla wa Ala est informé de tout ce que tu fais. Tout ce que tu dis. Vous voyez ? Et cette ma'iyya, c'est la ma'iyya qui est, comment ? Hein ? Amma. C'est la ma'iyya qui est globale, qui est générale à toutes les créatures. On a parlé déjà de ça. On avait vu que la ma'iyya se divise en deux. Al-ma'iyya al-amma ou al-ma'iyya al-khasa. Donc la ma'iyya qui est globale, qui est amma, c'est celle-là. C'est celle qui implique la science d'Allah tabaraka wa ta'ala, de toutes choses. Alors que la ma'iyya al-khasa, spécifique, c'est la ma'iyya de soutien, d'aide. D'accord ? De guider, de secours, etc. Et celle-là, elle est réservée aux croyants. حيث ما كنت, où que tu sois, c'est-à-dire à n'importe quel endroit où tu peux te trouver, Allah, il est avec toi. Donc, celui ou celle qui sait ça, qui sait qu'Allah Jalla wa Ala est avec lui, qu'il soit à la mosquée ou dans la rue, qu'il soit allé dans un centre commercial ou chez lui enfermé à double tour. Allah, il est avec lui. Il le sait. Donc, s'il sait cela et qu'il arrive à ne pas l'oublier et à craindre Allah, tabarak wa ta'ala, il dit les shaykhs, ses secrets et les moments où il est en public, c'est pareil pour lui. Il ne change pas de comportement. Sa foi, elle ne change pas, elle ne bouge pas. Qu'il soit devant les gens ou qu'il soit seul chez lui, pour lui c'est pareil. Celui qui est comme ça, eh bien cela voudra dire qu'il aura mis en pratique ce savoir, cette foi, qui est le fait qu'il soit convaincu qu'Allah il est avec lui, où qu'il soit. Ittaqillah haythu ma kunt. Crains Allah où que tu sois. Taïeb. Donc le hadith rapporté par At-Tabarani, Abu Qasim, Suleyman al-Lakhmi, qui fait partie donc des plus grands rapporteurs de hadith du 4e siècle de l'Égypte, Rahimahullah ta'ala, qui était un des élèves du fils de l'imam Ahmed, Abdullah. Donc un des shuyukh de Tabarani, yani, il y avait Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah. Et parmi ses élèves, Al-Bazzar, Al-Bazzar, rahimahumullah ta'ala. Al-Asbahani, et la réalité d'Alik. Al-Muhim, le hadith, est la preuve de l'affirmation de la ma'iyya d'Allah tabarak wa ta'ala avec ses créatures, de par sa science, de par le fait qu'il cerne toutes leurs œuvres. Il est donc obligatoire pour le serviteur de se rappeler cela constamment. Constamment. Voyez ? Pour qu'il ne tombe pas dans le fait d'être, de craindre Allah en public, lorsqu'il est seul chez lui, dans sa chambre, hein, il commet des interdits. Qu'il aurait honte qu'un être humain le sache. Mais il n'a pas honte d'Allah. Non. Certains ont honte d'être vus par des créatures en train de faire tel ou tel péché. C'est vrai ou pas? Donc ils vont attendre d'être seuls pour fumer, pour boire ou pour commettre tel ou tel péché. Mais ils oublient qu'Allah les voit. Et Allah mérite plus notre pudeur, notre honte, notre crainte que les créatures, subhanallah. Qu'Allah nous guide. Donc si le serviteur arrive à se rappeler constamment qu'Allah il est avec lui, eh bien sûr, cela va améliorer ses actes sans nul doute. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. طيب. يقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي إذا شرع فيها فلا يبصق أي لا يتفل قبل وجهه أي أمامه قبل وجهك أي أمامك وأنت في الصلاة. إذن قبل بكسر القاف وفتح الباء قبل فإن الله قبل وجهه. هذا تعليل للنهي عن البصاق في قبلة المصلي بأن الله سبحانه قبل وجهه أي مواجهه، وهذه المواجهة كما يليق بالله سبحانه لا يلزم منها أنه جل وعلا مختلط بالخلق، مختلط بخلقه، بل هو فوق سمواته مستو على عرشه وهو قريب من خلقه محيط بهم ولا عن يمينه أي لا يبصق المصلي عن يمينه لا تبصق لا تتفل عن يمينه تشريفا لليمين أولا تشريفا لليمين ولأن الملكين عن يمينه كذلك الملكين اللذين والملكان اللذان يكتبان أعمال العبد ها؟ ملك عن اليمين وملك عن اليسار. أما في الصلاة فقال بعض العلماء الملكين عن اليمين الملكين، أما القرين عن اليسار يعني الشيطان عن اليسار. ولهذا قال الشيخ لأن الملكين الاثنين عن يمينه كما في رواية للبخاري. ولكن عن يساره أو تحت قدمه، أي ولكن ليبصق المصلي في جهة يساره أو يبصق تحت قدمه. فالشاهد من الحديث أن فيه إثبات قرب الله سبحانه من عبده المصلي وإقباله عليه وهو سبحانه فوقه. Donc on passe au hadith suivant. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous commence la prière, qu'il ne crache pas devant lui, qu'il ne crache pas yani en face de lui, car certes Allah est en face de lui, qibala wajhihi, il est en face de lui, et qu'il ne crache pas non plus à sa droite, mais plutôt à sa gauche ou en dessous de son pied. En dessous de son pied. Donc le hadith, muttafaqun alayh. Anas, ça veut dire quoi muttafaqun alayh? Commence par le Bukhari, c'est mieux. Par le Bukhari ou Muslim, hein? Commence par le professeur avant l'élève. Le Bukhari ou Muslim. Surtout que Sahih al-Bukhari est plus authentique que Sahih Muslim par rapport aux conditions qui sont plus dures, hein, que ceux de Muslim rahmatullahi alayhima. Donc il dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous se lève pour la prière, littéralement, mais ce qu'il veut dire ici, c'est lorsque l'un d'entre vous commence à prier. Hein, lorsqu'il rentre en prière, il commence à prier, et bien qu'il ne crache pas. La yabsuq, ou la yatfil. Taflou, c'est un crachat. Le boussard. En face de lui, c'est-à-dire devant lui. Vous voyez? Déjà parce qu'il y a la qibla devant lui. Voyez, il fait partie du adab, du bon comportement, de ne pas cracher vers le qibla, déjà, même si tu n'es pas en prière. Même si tu n'es pas en prière et que tu sens que tu as besoin de cracher, tu évites le qibla. D'accord? Donc, qibla, d'accord? C'est-à-dire en direction de qibla. Qibla wajhi. C'est-à-dire devant son visage. Na'am. Donc il dit Allah tabarak wa ta'ala est en face de lui. Donc cette phrase-là, lorsqu'il dit car Allah est en face de lui, c'est l'explication, le motif. Pourquoi il a interdit que l'on crache devant nous en prière? Eh bien parce que Allah est en face de nous quand nous sommes en prière. D'accord? Na'am. Donc ici, on a la preuve du face-à-face avec Allah. Lorsque tu es en prière, sache que tu es en face d'Allah. Na'am. Bien sûr, d'un face-à-face qui est propre à Allah, qui est propre à la majesté d'Allah, à la hauteur d'Allah Jalla wa'ala. Et le fait qu'Allah Jalla wa'ala soit en face de toi en prière n'implique pas qu'il est avec ses créatures, yani mélangé avec ses créatures. Là, il peut être en face de toi et en même temps être au-dessus de toutes les créatures, sur son trône. Il dit le cheikh Al-Uthaymin, il y a deux choses que l'on peut dire à ceux qui voient en cela une contradiction. Comment ça se fait qu'Allah est au-dessus de son trône et en même temps il est en face de nous? Il dit le cheikh, premièrement bien sûr, parce que le prophète il a dit. Premièrement parce que le prophète il a dit. Donc on n'a pas à s'interroger comment, pourquoi, comment ça se fait. Allah il te dit, il est au-dessus de son trône, et le prophète il te dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est en face de toi. Ne cherche pas à savoir le comment. Allah jalla wa ala n'est pas comme les créatures. Et deuxièmement, il dit, même chez les créatures, eh bien, tu peux trouver ce genre de situation. Il dit, le soleil. Le soleil. Lorsque le soleil il se lève, le fajr, ou lorsque le soleil se couche, hein, et que tu le regardes, il est en face de toi. Pourtant, il est au-dessus de toi, le soleil. Donc, il est au-dessus, et en même temps, il est en face de toi. Ça, c'est la créature. Que dire alors du créateur, subhanahu wa ta'ala? D'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymeen. Aqil. Très intelligent. Rahimahullah ta'ala. Non. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il est proche de ses créatures. Et il sert de sa science ses créatures. Il ne crache pas non plus à ta droite. C'est-à-dire que celui qui est en prière, il ne crache pas non plus ni devant ni à sa droite. Devant on a vu pourquoi, et à sa droite. Pourquoi la droite ? Premièrement parce que le côté droit, il a un côté noble par rapport au côté gauche, comme on le tire dans la sunna, de la sunna. D'accord ? Mais également, il dit les chers, parce que les deux anges sont à droite pendant la prière. Les deux anges sont à droite. Et vous savez qu'on a tous deux anges. Un ange à droite et un ange à gauche, à la base. L'ange de droite, il écrit les bonnes actions. L'ange de gauche, il écrit les mauvaises actions. Mais les ulama, ils disent que pendant la prière, les deux anges, ils se mettent à droite. Les deux anges se mettent à droite. C'est pour ça que le Cheikh Al-Fawzan, il dit, ne crache pas à droite, car il y a les deux anges qui sont à ta droite. Non ? Comme on l'a vu dans, ou comme vous pouvez le voir dans la version de Al-Bukhari. Mais crache plutôt à ta gauche ou en dessous de ton pied. D'accord ? Donc le prieur, le musalli, il doit cracher en direction soit de sa gauche, soit en dessous de son pied. Et ça, bien sûr, ça concerne, les frères, celui qui prie tout seul. Celui qui prie tout seul. Et pas dans une mosquée non plus. Celui qui prie dehors, fi sahara, hein, dans la forêt, où tu veux. Mais à la mosquée, tu craches pas du tout, même si tu pries seul. Le frère, il vient, il voit plein de crachats par terre. Là, si tu as envie de cracher, fi masjid, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un mindé, tu prends un mouchoir. Et si tu n'as pas de mouchoir, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la manche, ton kamis. D'accord? Et alhamdoulilah, c'est pas quelque chose d'impur. C'est pas quelque chose d'impur. Donc tu craches dans ta manche, et tu restes en prière. D'accord ? Non. Et également ceux qui sont des fois atteints de waswas. Hein ? On sait que la sunna, lorsque le shaitan, hein, te fait beaucoup de waswas et qui te contraint à demander protection auprès d'Allah, on doit faire quoi? On doit dire A'udhu billahi minash shaitani rajim. On doit regarder à gauche et souffler trois fois. D'accord? Souffler trois fois. Comme ça. Mais s'il y a quelqu'un qui prie à ta gauche, hein? Mashaïr, ils disent tu le fais pas. Tu le fais pas. Ou soit tu prends un mouchoir et tu le mets devant ta bouche. Et tu ne le fais pas s'il y a ton frère à côté. Certains disent, tu dis juste A'udhu billahi minash shaitani rajim. Et tu ne craches pas trois fois alors que tu as ton frère à ta bouche. Si tu pries seul, ou si tu pries à gauche du rang, tu es à l'extrémité gauche, et s'il y a un frère, tu évites de faire ça. Pas qu'il se reçoit des postillons là, dans l'oreille ou dans la joue. Rien aussi.
Tu dois regarder
Ouais, côté gauche comme ça. Non. Et tu croyais quoi, toi? Comment? Mais tu regardes où quand tu fais ça? Ah, tu fermes les yeux. En prière, tu ne fermes pas les yeux. À la base, tu ne fermes pas les yeux en prière. De temps en temps, si tu veux te concentrer, tu peux fermer les yeux quand tu récites, tu veux te concentrer. Mais à la base, tu ne fermes pas les yeux, déjà, de un. Et de deux, la sunna, c'est de regarder à gauche. Un, deux, c'est permis. C'est pas le corps qui tourne, hein. C'est que la tête. Le corps, il reste vers le qibla, toujours. Non. Taïe. Donc le hadith contient la preuve de la proximité d'Allah. Qu'Allah Jalla wa Ala, il est proche de son serviteur, notamment celui qui prie, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait attention à lui, particulièrement yani, lorsqu'il est en prière, mais que Allah Jalla wa Ala est au-dessus de ses créatures. Non. فهذا الحديث النبوي الصحيح متفق عليه من نصوص الصفات وذلك أن الله جل وعلا قبل وجه المصلي أي أمام المصلي كيف يشاء وكيف يريد لا تحريف لا تعطيل لا تأويل مذموم لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء فيجب علينا أن نعتقد أن الله عز وجل قبل وجوهنا في الصلاة. طيب. كما أن الحديث كما قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله يدل على عظم شأن الصلاة. لذا فإن الله جل وعلا قبل وجه المصلي. وهذا يدل على أن الصلاة عند الله أعظم الأعمال وأجل القربات. طيب الصلاة كما قال الشيخ ذات الركوع والسجود وهذان ركنان لا يكونان إلا لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى لا يركع أحد لأحد لا يسجد أحد لأحد وإنما الركوع الذي هو انحناء وانخفاض لا يكون إلا لله والسجود الذي هو وضع الجبهة والوجه الذي هو أشرف الأعضاء على الأرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما وإجلالا وليترتب عليه الجزاء الحسن من الله سبحانه وتعالى Donc ce hadith authentique, il fait partie des hadiths concernant les sifat d'Allah. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous apprend donc que Allah jalla wa ala est en face de celui qui est en train de prier. Allah, il est en face de lui. De la manière qu'il veut et qui lui est propre. Donc on n'a pas le droit de faire d'interprétation erronée, de dire que cela veut dire ceci et cela. Non. Allah, il a dit, il est en face du prieur. On dit, il est en face du prieur. On ne doit pas non plus renier cette sifa ou altérer ou changer le sens de la sifa. On doit y croire, c'est tout. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. De la manière qu'il veut. Et ce hadith, comme dit le Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, montre aussi la valeur énorme de la prière. Regarde, subhanallah, Allah jalla wa ala se met en face de toi pendant que tu pries. Regarde la valeur de la prière, cette adoration-là. Non. Cette prière, donc, qui est composée de gestes tels que l'inclinaison ou la prosternation, qui sont deux piliers, des piliers de la prière, qui ne peuvent être accomplis que pour Allah tabaraka wa ta'ala, personne d'autre. L'inclinaison qui est le fait de se baisser un peu, hein, de s'incliner vers le bas, que ce soit avec la tête ou le dos. Ça, ce n'est réservé qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. La prosternation, qui est le fait de poser le front, le visage par terre, le visage qui est la partie la plus noble chez l'être humain, c'est le visage. Eh bien, tu le poses par terre. Et ça, c'est réservé qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, à personne d'autre. Par amour, par élévation, par vénération, par adoration. Et afin que la personne, hein, soit gratifiée des récompenses énormes auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc attention sur tous ceux qui, des fois dans certains pays, dans certaines traditions, hein, les gens, quand ils disent bonjour, ils baissent un peu le dos comme ça, ils s'inclinent. Comment font les Asiatiques? Ils s'inclinent, hein, quand ils disent bonjour. Mais dans certains pays africains, ils le font aussi. Ils vont baisser un peu la tête. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, certains pays, certains peuples ont cette habitude-là de baisser un peu. C'est que pour Allah tabarak wa ta'ala. D'ailleurs, et les ulama, ils ont divergé. Certains ont dit c'est du shirk dans l'absolu. D'autres ont dit non, ça dépend de l'intention. Ça dépend de l'intention. S'il le fait pour saluer une personne, pour lui montrer son respect, il dit c'est un grand péché, mais c'est pas du shirk, mais c'est un grand péché. S'il le fait par adoration, là oui, là. Donc attention aussi, les frères qui font des sports de combat, par exemple, hein, le karaté ou les arts martiaux, n'importe quoi. Attention, ils disent Adala Yadjou, c'est pas permis de faire le salut, de se baisser devant ton adversaire. Ça c'est réservé que pour Allah. Si on doit le conseiller.
Si
c'est pas un musulman,
hein?
Si c'est pas un musulman, tu l'appelles à l'islam. À la vente. <vertu. coughs> Non, non, c'est le prix, hein. Que ce soit tout seul ou en groupe. Là, il est devant toi.
C'est le moment où Allah est vraiment le plus proche de toi en prière, en prosternation.
C'est pas l'heure, les frères, Nadir? Nadir?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha
illallah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
كذلك هو الذي ينزل
حي
بذاته هو الذي ينزل.
حي على الفلاح.
نعم. ما في تأويل. ما في تأويل.
حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر.
لا المعية شيء آخر. المعية معية عامة وخاصة. وهي إما العلم إما النصر والتأييد كذلك. طيب. ليس المعنى أن الله جل وعلا مختلط بخلقه لا، لكن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم قبل وجهه بمعنى أن الله قبل وجهه، يعني نبقي الحديث على ظاهره. نعم. ليس أمره يعني أمام المصلي، ليس رحمته أمام المصلي، ليس علمه، ما في تأويل. جميع التأويلات مذمومة هنا في هذا الحديث. الله جل وعلا قبل وجه المصلي. طيب. أين؟ وختام إن شاء الله تعالى في شأن الصلاة يقول الشيخ حرم الله عز وجل على النار أن تأكل أعضاء ماذا؟ السجود. حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود، وهذا في حق عصاة الموحدين لشرفها، لشرف أعضاء السجود ولشرف أعمال الصلاة وهيئاتها. فلو استشعر المصلي عظمة الله تبارك وتعالى ومقامه ووقوفه بين يدي الله وعناية الله به، قال الشيخ المدخلي لبذل مجاهدة نفسه حتى لا يميل قلبه إلى متاع الحياة والاشتغال بها، وحتى لا تعبث الجوارح، وحتى لا يزيغ قلبه ولا يزيغ بصره يمينا وشمالا. وفينير إن شاء الله يجي الشيخ زايد المدخلي رحمه الله ce hadith nous montre donc l'importance la valeur de la prière par rapport au fait qu'Allah il est en face de toi. Non, chacun en prière, il doit ressentir ça. Il doit le ressentir, il ne faut pas qu'il oublie de ressentir qu'Allah il est en face de lui pendant la prière. Allah il est au-dessus de lui et il est en face de lui. Non. Taïeb. Et parmi donc les mérites, les bienfaits de la prière sur la personne, le fait que Allah Jalla wa Ala, il a interdit au feu de l'enfer de brûler quoi? A'dha as-sujud, les membres de la prosternation. Les ulama disent tous les membres qui touchent le sol quand tu es prosterné, hein? Le visage, les mains, les pieds, les genoux, Allah il a interdit au feu de l'enfer de les toucher. Ça concerne bien sûr les croyants qui, malgré le fait qu'ils priaient, eh bien, il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala les punisse dans l'enfer par rapport à certains péchés. Eh bien, malgré ça, le feu ne touchera pas les membres de la prosternation. Ça montre encore une fois la valeur de la prière. As-salat, as-salat. La valeur aussi des actes de la prière. Des piliers de la prière, ces actes-là, comme on a dit, qui ne sont réservés qu'à Allah, tels que la prosternation ou l'inclinaison. Donc si le prieur, lui, il ressent ça, et on doit tous se rappeler cela, on doit tous ressentir le fait que Allah Jalla wa Ala, il est devant nous quand on prie. Parce qu'en faisant cela, en ressentant la position dans laquelle tu te trouves en prière et que tu sais que tu es en face d'Allah, tu es en face de ton Créateur, de ton Seigneur, et tu sais qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il fait attention à toi à ce moment-là, eh bien ça va t'inciter à combattre ton nefs, à lutter contre ton âme, afin que ton cœur ne dévie pas à droite ou à gauche. Taïeb ? Parce que, comme il dit Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate al-Inshiqaq, la tarkabunna tabaqan an tabaq, dans le sens rapproché, et vous passez par des étapes successives. Vous passez d'une étape à une autre. Yani, c'est-à-dire que l'état de la créature, de l'être humain, change, se transforme d'un état à un autre. Et la chose qui change le plus, ou l'une des choses qui change le plus chez l'être humain, c'est le cœur. C'est le cœur. Une âme. Un jour, tu crains Allah, le lendemain, ton cœur, il est attaché à la dunya. Un jour, tu crains Allah, ton cœur, il est attaché à Allah, tabaraka wa ta'ala. 2 heures après, ton cœur, il est dans le foot, dans la Champions League, dans l'argent, dans les voitures, dans les maisons, dans les femmes. Et 3 jours après, tu reviens à Allah, tabaraka wa ta'ala. Le cœur, il est comme ça. Hein? C'est pour ça que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Allahumma ya muqallib al-qulubi, thabbit qalbi ala dinik. » Parce qu'il sait que « Qulub bani Adam bayna usbu'ayn min asabi' al-Rahman, yuqallib kayfa yasha. » Allah, le cœur de l'être humain, il est entre les 2 doigts des doigts d'Allah, tabarak wa ta'ala, et il les retourne comme il veut. Il les retourne comme il veut. Et pendant la prière, c'est pareil. Au début de la prière, tu es concentré. Allahu Akbar. Tu vois comme si Allah il est en face de toi. Tu le ressens. Et puis, au bout de 1, 2, 3 minutes, ton qarin, ton shaitan, il vient. Il commence à te faire penser à d'autres choses. Qu'est-ce que tu vas faire après la prière? Combien tu as gagné aujourd'hui? Combien tu as vendu? Combien tu as perdu? Qu'est-ce qu'il me doit à l'autre? Aina, ma femme me rend fou. C'est beau ou pas? Et après tu reviens. Et c'est comme ça, le cœur il est comme ça. Le cœur il est comme ça. Mais quand tu arrives à ressentir qu'Allah il est en face de toi, c'est là que tu vas combattre au mieux ton âme. Là tu seras armé pour combattre ton âme, parce que tu sais qu'Allah il est en face de toi. Certes, Allah il est au-dessus de son trône, mais pendant la prière il est en face de toi aussi, parce que le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que ton cœur il reste en prière du début à la fin, hein, et que tu ne penses pas à la dunya, et que tes membres ne bougent pas à droite et à gauche en train de gratter ta barbe, tes cheveux, de fouiller tes poches, de regarder ta montre, hein? Ton regard il reste toujours vers le bas, vers Mawdi' al-Sujud, là où tu poses ta tête, car sinon tu vas commencer à bouger à droite à gauche. Et comme cela arrive très souvent. Mais aussi, si tu veux que ta prière soit acceptée à 100%, ça y est, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le ma'an al-hadith, lil musalli min salatihi ma' aqila minha. Le prieur, il aura de sa prière que les moments dans lesquels il a fait preuve de réflexion, de concentration, de méditation. Voyez? Donc le moment où il est rafil, il est insouciant, il a dit Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. Mais il n'a même pas réfléchi à ce que ça voulait dire. Mais il a perdu la récompense de ce moment-là. Il a dit Alhamdulillah Rabbil Alameen. Il n'a même pas réfléchi qu'il est en train de louer Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Il n'a même pas réfléchi à la Rahma d'Allah subhanahu. Malik Yawmiddin. Il n'a même pas pensé à ce jour-là, qui est le jour de la rétribution et du jugement. Vous voyez ? Donc il se peut qu'il sorte de la prière et qu'en vérité il ait gagné que la moitié de la prière, ou le tiers, ou le huitième, ou le sixième, ou le cinquième, Allahu a'lam, ou le quart, en fonction de des moments de concentration et de présence. Et la présence, ce n'est pas juste le corps, c'est le cœur. On finit sur ça, inchallah. Allah il dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière, elle empêche de faire les turpitudes et le blâmable. Le fahsha, toutes les mauvaises actions, ou le munkar. Une chose que la charia interdit. Certains parmi les juhal, ils disent par exemple Salatuna la tanhana. A'oudhu billah. Salatuna la tanhana anil fahsha'i wal munkar. Fa'ayna wa'adullah. A'oudhu billah. Ils disent nous on prie, mais notre prière elle nous empêche pas de faire des péchés. Elle nous empêche pas de tomber dans la turpitude et le blâmable. Elle est où la promesse d'Allah? A'oudhu billah. Ils te disent, regardez, Allah, il nous promet, il a dit que la prière empêchait de faire ceci et cela. Pourquoi on les fait toujours? Dis les chers Uthaymin, parce que vous avez prié avec votre corps, mais pas votre cœur. Vous n'avez pas prié avec votre cœur. Votre corps, il prie, na'am. Mais votre cœur, il est ailleurs. Votre cœur, il est ailleurs. Et à l'inverse, celui qui faisait des péchés, et lorsqu'il a commencé à prier assidûment à la mosquée avec les frères, etc., et que cela l'a amené à abandonner les péchés, à délaisser les péchés, c'est la preuve que lorsqu'il prie, il prie avec son cœur. Car Allah Jalla wa Ala ne manque jamais à sa promesse. فنكتفي بهذا إن شاء الله والله تعالى أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والله أعلم.